Chapitre 3. À la Villa Louise, l'enquête ne faisait que commencer. Le premier officier de police qui était arrivé avait été Frédéric Preux, de service ce dimanche-là. Célibataire, il acceptait plus souvent qu'à son tour les astreintes le week-end. Une fois sur place, il s'assura que l'endroit où avait été commis ce qui semblait bien être un homicide était dégagé et protégé, que les différents enquêteurs étaient prévenus, que la lourde machinerie judiciaire s'était mise en branle, puis en attendant l'arrivée du substitut du procureur, il recensa les principaux témoins et se fit raconter par Mélanie Fougaille, la meilleure amie de la victime, les circonstances de sa macabre découverte. Au demeurant, il ne put pas en tirer grand-chose. Entre deux sanglots et trois reniflements, celle-ci lui apprit quand même que Barbara, elle-même et quelques connaissances, discutaient de leurs vacances respectives lorsque, à un moment, Barbara, qui avait passé 15 jours en Floride, avait prétendu avoir vu, lors d'une randonnée dans les Everglades, un alligator de près de 10 mètres, pratiquement collé au bateau. Devant le scepticisme et les moqueries de certains membres du groupe, elle s'était animée et avait indiqué posséder une preuve, une photo prise par un des guides où elle figurait avec l'animal à l'arrière-plan. D'ailleurs, elle allait le chercher illico, pour, selon ses propres mots, clouer le bec aux esprits forts. Elle s'était dirigée d'un pas énergique vers la maison. Au bout d'un quart d'heure, comme elle ne revenait pas, quelqu'un avait dit en ricanant qu'elle était allée au zoo de Lille faire la photo. Mais elle, Mélanie, avait trouvé cette longue absence bizarre et était partie à sa recherche. Arrivée dans le hall, elle avait vu la porte du salon ouverte et le trousseau de clés de Barbara, identifiable par le petit chat qui servait de porte-clés engagé dans la serrure. Elle s'était approchée et, à peine passé le seuil, avait vu Barbara étendue. Elle avait remarqué la tache rouge sur la poitrine, avait hurlé instantanément et était ressortie en courant. Ramenée elle aussi près du corps, elle s'avoua incapable de certifier formellement qu'il se trouvait dans la position où elle l'avait découvert. Dès lors, Pro ne fut pas surpris d'apprendre qu'elle n'avait pas remarqué près de la victime de badge au nom de Claude Gauvin, nom qui, au demeurant, lui était totalement inconnu. Ce badge avait été trouvé par un des enquêteurs de la police scientifique. Comme Claire en avait eu l'intuition, il était à moitié dissimulé par les franges du fauteuil près duquel gisait Barbara, si bien qu'il était invisible de l'entrée du salon. Pour l'apercevoir, il fallait être placé au-delà du cadavre. Preux en fit l'expérience avant de procéder à l'audition de Gentillier. Bien que ce dernier parût lui aussi très affecté, ainsi qu'en témoignait sa grande pâleur et sa voix atone, il répondit de façon précise aux questions du policier. Ce badge a été ramassé près du corps de Barbara, dit Preux en montrant l'indice placé dans une pochette plastique. Il s'agit bien du modèle que portait chaque invité. L'industriel pencha la tête tout en ajustant ses lunettes sur le nez. Oui, aucun doute. Nous en avons commandé 100 comme celui-là. Ils ont été presque tous utilisés. Par contre, le nom dessus ne me dit rien. Qui a eu l'idée de ce système de badge? Ma collaboratrice, Georgette Lecoeur. Elle m'a fait remarquer que, comme beaucoup de monde était attendu, le port d'un badge permettait à chacun d'identifier facilement les autres. Elle m'a suggéré en outre d'y faire inscrire le nom et prénom des invités par deux ouvriers de l'imprimerie qui les accueilleraient à l'entrée. Ce serait une façon élégante de rappeler le motif de la réception. Cette proposition m'a paru judicieuse et je l'ai entérinée. Est-ce aussi Mademoiselle Lecoeur qui a adressé la liste des invités? Il y avait une pointe d'ironie dans la voix. Mais Tillier, soit qu'il ne l'eût pas remarquée, soit qu'il ne voulût pas la relever, répondit de la même voix morne. Nous l'avons établi ensemble, notant ceux qui étaient incontournables. Les hommes politiques, les clients et les fournisseurs, certains ouvriers médaillés, mais la liste n'était pas exhaustive et chacun dans la maison, ma femme, Barbara ou moi-même, pouvait y adjoindre des amis personnels. De ce fait, si Rebecca Tillier, quand elle sera en mesure d'être entendue, avoue à son tour ne pas connaître ce Claude Gauvin, il faudra en conclure qu'il a été convié à la réception par la victime, pensa Preux. Avez-vous cette liste? Moi, non. Mais Georgette doit l'avoir gardée. Elle pourra vous la montrer. Pro l'interrogea ensuite sur les conditions de la réception. Comme le temps s'annonçait beau, Rebecca et lui avaient décidé de lui donner une forme d'une garden party. Des amis leur avaient recommandé un traiteur lillois. Georgette s'était chargée de le contacter et de régler avec lui les questions d'intendance. Pour la maison, étant donné que Rebecca souhaitait le minimum de dérangement, on avait simplement laissé ouvert le hall des deux côtés pour l'accès aux toilettes et aux vestiaires. Mais on avait fermé à clé la porte des pièces qui le bordaient à gauche, à savoir son bureau, la salle à manger et le salon où Barbara avait été retrouvée. Fouillant dans ses poches, il en sortit un volumineux trousseau de clés. C'est celle-là, dit-il après avoir cherché un moment. Je ne m'en sers quasiment jamais, les pièces étant normalement toujours ouvertes. Il montra une clé très simple, au paneton non dentelé, qui servait pour toutes les portes internes. Preux nota qu'elle était identique à celle qu'on avait retrouvée sur la porte du salon. Combien en existe-t-il d'exemplaires? Demanda-t-il, désirant éclaircir ce point immédiatement. Normalement, il y en a quatre. Je viens de vous montrer la mienne. Rebecca en détient une. Barbara aussi, et la dernière est pendue à un clou dans la cuisine, à la disposition de la femme de ménage ou en dépannage en cas de perte. Mais je tiens à vous redire, poursuivit-il en voyant pronoter ces informations sur un carnet, que ces portes ne sont d'ordinaire jamais fermées à clé. Preux allait répondre quand un policier vint l'avertir de l'arrivée du substitut du procureur. De ce fait, il se contenta de remercier Gentilier de sa collaboration et alla à la rencontre du magistrat qu'il mit au courant des premières investigations. Le substitut, le maçon, n'aimait pas Preux, qui le lui rendait bien, mais lui reconnaissait une efficacité certaine. En outre, il savait qu'il était à bonne école en faisant partie de l'équipe du commandant de police Boulanger. Il le questionna sur l'état d'avancement de l'enquête que ce dernier menait à propos du meurtre de Wattini. La presse avait beaucoup glosé sur ce bijoutier qu'on avait retrouvé dans son arrière-boutique, tué à coups de barre de fer. C'était Boulanger qui avait hérité du dossier. Preux expliqua que celui-ci venait de boucler l'affaire. Alors qu'au début, on avait pu croire qu'il s'agissait d'un meurtre commis par des cambrioleurs dérangés en pleine activité, Boulanger avait pu établir par la suite que le mobile du crime était passionnel et que l'assassin était le banquier du commerçant qui entretenait une liaison torride avec la femme de ce dernier. Suivant un scénario classique, les malfaisants avaient voulu se débarrasser du gêneur. Le maçon esquissa une grimace de dégoût puis dévoila son idée, faire confier par le procureur l'assassinat de Barbara à Boulanger. Puisque l'enquête de Wattini est terminée et que le hasard fait que vous vous êtes chargé des préliminaires de celle-ci, vous pourriez peut-être continuer. Il serait dommage qu'une équipe comme celle du commandant Boulanger se retrouve à se tourner les pouces, dit-il avec un rictus sarcastique. C'est ainsi qu'après une série de coups de téléphone impliquant le maçon, le procureur et le commissaire Zenkin, le supérieur direct de Boulanger à la PJ, celui-ci fut averti chez lui, peu après 18 h, qu'il était officiellement chargé d'élucider le meurtre de Barbara Roussel. Il venait de rentrer de la Panne, sur la côte belge, où il avait passé avec sa femme ce dimanche estival et, dans son appartement lillois du centre-ville, s'apprêtait à regarder à la télévision les résultats sportifs en sirotant un pur malt de derrière les fagots. Au lieu de quoi, il se mit en route pour la Villa Louise où il ne mit que quelques minutes à arriver, Lille et Lambersart étant limitrophes. Avant de partir, il avait appelé Patrick Lemayeux, un brigadier de police de 32 ans, détaché depuis 10 mois dans son service, et lui avait donné rendez-vous sur place. Par contre, il ne prévint pas son adjointe, le capitaine de police Sylvie Monin. Celle-ci, mariée, avait 2 enfants en bas âge, dont un garçon sourd et muet. Il estima inutile de la déranger en cette fin de dimanche, Preux semblant avoir pris les mesures adéquates. Il serait toujours temps de la faire venir si la situation l'exigeait. Raymond Boulanger avait 46 ans. Il était né à Valenciennes, mais après avoir réussi le concours d'officier de police, avait été nommé en Bretagne, où il avait rencontré Annick, sa femme. Les diverses affectations de sa carrière l'avaient conduit ensuite à Bordeaux, à Rouen, et depuis 3 ans à Lille, où il était arrivé avec le grade de commandant. Annick aurait voulu qu'il se fixe enfin, en particulier pour leurs 3 enfants qui, en raison des multiples déménagements, avaient eu une scolarité chahutée. Bien que souhaitant un jour retrouver ses chères Côtes d'Armor, elle se plaisait à Lille qui, depuis quelques années, était devenue une cité attrayante et active. Quant à Boulanger, il appréciait doublement la ville, en elle-même et comme cadre de son travail, car il se sentait bien intégré au SRPJ. En arrivant à la Villa Louise, il ressentit une bouffée de nostalgie. Il se revit tout jeune encore, alors qu'il préparait le concours d'officier de police, invité dans cette demeure où Gaston Tillier donnait des réceptions aussi grandioses que mémorables. C'est grâce à son oncle, un juge d'instruction aujourd'hui à la retraite, ami de l'imprimeur, qu'il avait pu assister à l'une de ces fêtes flamboyantes qui réunissaient hommes politiques, magistrats et capitaines d'industrie, et dont Gaston, un géant d'1 m 93 qui pesait 120 kilos, personnage haut en couleur et fort en gueule, était la vedette naturelle. Boulanger avait été ébloui par cette concentration d'hommes importants qui, malgré la diversité de leur métier, semblaient former une caste. Plus ou moins consciemment, Il avait souhaité un jour en faire partie et il y était arrivé si l'on considérait que, dans ses enquêtes et en dehors, il fréquentait bon nombre des notables de la ville. Et maintenant, en entrant dans le hall, il sentait que serveurs, témoins et policiers, qui semblaient l'attendre, le regardaient avec déférence. L'espace d'un instant, sa vanité en fut flattée. Ah, boulanger, vous voilà enfin, dit le maçon d'une voix aigre où perçait l'agacement, ce qui mit un terme instantané à la rêverie du policier. J'ai eu le procureur. C'est vous qui êtes chargé de l'enquête. Votre subordonné, Preux, a pris les premières mesures. Quant à la police scientifique et l'identité judiciaire, ils en ont presque terminé. Il se pencha vers lui et, sur un ton plus bas, ajouta: J'y vais. En venant ici, j'ai dû laisser mon frère qui montait de Nice pour le week-end. Téléphonez-moi demain pour me tenir au courant. Boulanger le regarda s'éloigner avec soulagement. Comme Preux, il le trouvait antipathique et le tenait pour carriériste. Chassant le maçon de son esprit, il entra dans le salon. Les gens de l'identité judiciaire étaient déjà partis. Ceux de la police scientifique s'apprêtaient à en faire autant. Ils rangeaient leur matériel tout en plaisantant. Pour un peu, on aurait pu se croire sur un plateau de cinéma à la fin d'un tournage. Boulanger ressentit d'autant plus cette impression que leur chef, le commandant Fromont, était surnommé Woody Allen, en raison d'une ressemblance certaine avec l'acteur. Lui aussi semblait pressé de quitter les lieux. Salut, boulanger, dit-il en lui serrant cordialement la main. À vous la place, moi j'ai tous mes petits échantillons. Il enfila un blouson d'hiver, ce qui fit sourire Boulanger. Chacun savait à la PJ que, comme son glorieux sosie, Fromont avait toujours peur de s'enrhumer. Je vous ferai parvenir les résultats dès qu'ils auront été analysés. Prouveux pour l'EJ m'a dit de vous prévenir qu'il en ferait autant. Quant au docteur Fruleux, qui a examiné le corps, il n'a pas cessé de bougonner sous prétexte qu'on l'avait dérangé pendant sa sacro-sainte partie de rami dominicale. Ce ne doit pourtant pas être la première fois. Enfin, je présume qu'on vous enverra les résultats de l'autopsie au plus vite. En attendant, voyez Preux. Je crois qu'il lui a confié ses premières impressions. La pièce se vidait. Quelques hommes de Fromont tournaient encore autour du cadavre, sans plus s'en occuper que s'il se fût agi d'un objet. Boulanger s'approcha du corps. Celui-ci était toujours dans la même position. Personne n'avait même songé à lui fermer les yeux. Boulanger remarqua à son tour l'expression de stupéfaction inscrite sur le visage, comme si Barbara était surprise du peu d'attention qu'on lui prêtait désormais. Dans le hall, les brancardiers de l'Institut médico-légal attendaient qu'on leur permît d'entrer et de l'emporter. Boulanger sortit du salon, leur fit signe qu'il pouvait y aller et se mit à la recherche de Preux. Il le trouva dans le bureau de Gentilier, que ce dernier avait mis à la disposition de la police, en train de griffonner des notes sur un agenda. Quand il vit son supérieur, Preux se leva en souriant. Bonjour Raymond, dit-il en serrant la main que Boulanger lui tendait. Alors, c'est à nous qu'est confiée l'enquête? Boulanger acquiesça de la tête. Il appréciait d'une part que Preux, depuis peu, l'appela par son prénom, comme il avait encouragé ses subordonnés à le faire, et d'autre part qu'il ait dit nous. C'est vrai qu'ils formaient une bonne équipe tous les quatre, lui, Boulanger, Monin, son adjointe, Preux et Lemayeux, lequel, dès son arrivée, était allé dans le jardin donner un coup de main aux policiers qui recueillaient les coordonnées des déclarations des invités. Preux lui rendit compte des préliminaires de l'enquête. On fouillait la maison et le jardin à la recherche de l'arme du crime. Un gardien de la paix était en faction devant la chambre de la victime, en attendant que Boulanger aille l'inspecter lui-même. En ce qui concernait les interrogatoires, vu le nombre de personnes présentes à la réception, Preux s'était occupé en priorité des témoins utiles. Mélanie Fougaille, qui avait découvert le corps, les premiers invités arrivés sur les lieux après ces cris et, bien sûr, le maître de la maison, Gentilier. Pour les autres, et notamment les personnalités politiques, on se contentait de leur identité précise et de quelques questions de routine, à moins qu'ils n'eussent quelque chose de particulier à signaler. On enregistrerait leur déposition complète que le lendemain ou les jours suivants, au fur et à mesure des besoins de l'enquête, soit en allant chez eux, soit dans la grande majorité des cas, en les convoquant au SRPJ. Boulanger hocha la tête. Preux avait fait preuve de son efficacité coutumière. Le commandant se fit ensuite résumer les déclarations de Mélanie Fougaille et Gentilier. Que vous a dit le docteur Fruleux? Demanda-t-il quand Preux eut terminé. Pour lui, l'affaire est claire. La victime a reçu un coup porté avec un objet tranchant, sans doute un couteau. Le cœur a été atteint, ce qui explique qu'un seul coup ait pu donner la mort. Celle-ci a été instantanée. Bien sûr, il nous demande d'attendre ses conclusions définitives après l'autopsie. Et pour l'heure du crime? Là encore, il est formel. Vu l'état du corps, qui ne présentait encore pratiquement aucun symptôme de rigidité au moment où il l'a examiné, à 16h50, la mort remontait au maximum à 1 heure, 1 heure 15 auparavant. Cela situe donc le meurtre entre 15h45, heure à laquelle Barbara est allée chercher les photos de Floride, et 16h05, heure où Mademoiselle Fougaille a découvert le corps. Oui, indubitablement. Deux personnes du groupe de Barbara qui songeaient à rentrer chez eux ont regardé leur montre au moment où celle-ci partait vers la maison. Ils confirment qu'il était presque 15h45. Quant à l'heure de 16h05, moment où Mademoiselle Fougaille s'est mise à hurler, elle est attestée par plusieurs invités. 20 minutes, c'est court, dit pensivement Boulanger. C'est court et c'est long en même temps. Il ne faut pas longtemps pour tuer d'un coup de couteau. Et beaucoup de monde avait eu la possibilité de le faire. Il n'y avait pas loin d'une centaine d'invités. Vous avez raison, Frédéric, mais sur ce nombre, il y en a certains qu'on peut éliminer d'office. Vous ne voyez tout de même pas le maire de Lambersart ou le président de la communauté urbaine de Lille faire le coup, dit Boulanger en souriant. Non, évidemment. Encore que, répondit Preux dans un éclat de rire. Même si on les élimine de la liste des suspects, poursuivit-il plus sérieusement, celle-ci comporte encore beaucoup de noms. Boulanger réfléchit un moment. Dans un sens, le fait qu'il y ait eu du monde peut nous servir. Il serait étonnant que personne n'ait rien vu. Il faudra attendre les dépositions détaillées des invités. Peut-être l'un d'entre eux se sera-t-il remémoré un détail insolite, susceptible de nous mettre sur la piste de l'assassin. Mais je vous avoue que je n'y crois pas trop. Rappelez-vous le vieil adage. C'est dans les grandes foules qu'un individu passe le mieux inaperçu. Boulanger reconnut là le pessimisme inné de Preux. Celui-ci doutait toujours, des hommes comme des choses. Certes, cette attitude pouvait s'avérer utile, surtout chez un enquêteur. Heureusement toutefois, pensa le commandant, que ce regard négatif était compensé dans l'équipe par l'humanisme de Monin ou la bonne humeur perpétuelle de Lemayeux. Et cette histoire de clé, reprit-il, sortant de sa rêverie. Avez-vous eu le temps de vérifier ce que dit Tillier? Oui, il semble bien y avoir quatre clés. Celle de Tillier qu'il m'a montrée, celle de Rebecca, sa femme, qui la laisse en permanence dans un des tiroirs du bahut de la salle à manger, celle de la cuisine que j'ai trouvée pendue à un clou, comme on me l'avait indiqué, et enfin celle de Barbara qui se trouvait sur la poignée de porte du salon. Étant donné que j'ai pu constater que la clé de Madame Tillier était à sa place, je pense qu'il n'y a aucun mystère là-dedans, et que la porte du salon, fermée volontairement lors de la garden party, a été ouverte tout simplement par Barbara avec sa clé, quand elle est venue chercher les photos. C'est effectivement la solution la plus vraisemblable. Barbara croyait n'en avoir que pour quelques secondes, le temps de prendre la pochette photo. Elle a dû laisser la porte entrouverte derrière elle, avec les clés sur la serrure. Mais si cette hypothèse est exacte, elle implique que le meurtrier l'a guettée, l'a suivie et est entré juste derrière elle. Au demeurant, avez-vous retrouvé cette pochette photo? Elle était à sa place habituelle dans un petit meuble dédié à cet usage. Les étagères inférieures sont remplies d'albums photos, tandis que les tiroirs du haut contiennent des photos récentes, pas encore classées et toujours dans leur pochette d'origine. Il semble donc que Barbara n'a pas eu le temps de la prendre, ce qui accrédite la thèse d'une arrivée de l'assassin sur ses talons. Donc, s'il l'a surveillée, cela exclut un meurtre fortuit, commis par un invité indélicat jouant les Arsène Lupin, surpris par Barbara en train de voler, se métamorphosant en Jack l'éventreur. L'hypothèse du voleur ne peut être totalement écartée, Raymond. Dans une foule de plus de 70 personnes, statistiquement, il doit y avoir au moins un kleptomane ou simplement quelqu'un qui, jaloux de l'opulence de la Villa Louise, aurait souhaité se livrer à une action de justice sociale, dit Preux avec un sourire narquois. Mais cela implique que ce voleur surpris en flagrant délit ait eu une clé. Je n'y crois pas. Par contre, il est possible que le meurtrier soit entré avec l'une des trois autres clés dans le salon avant Barbara l'y ait attendu. Comment aurait-il su qu'elle allait s'y rendre, puisque, d'après Mademoiselle Fougaille, elle s'est décidée brusquement sur un coup de colère? De toute façon, qu'il soit entré dans le salon à la suite de Barbara ou qu'il y ait attendu, le meurtrier l'a visé nommément. Se pose alors la question du mobile. Si ce meurtre n'est pas fortuit, il faut chercher qui lui en voulait, au point de ne pas hésiter à l'assassiner. En entendant ces mots, Preux revit le visage angélique de la morte, le regard plus étonné qu'épouvanté, comme si la jeune femme jusqu'au dernier moment n'avait pas cru l'assassin capable de commettre un tel acte. Il nous faut retrouver Claude Gauvin, dit-il à mi-voix, comme s'il se parlait à lui-même. Au regard étonné que lui lança Boulanger, Preux comprit que ce dernier ignorait la découverte du badge à moitié caché sous le fauteuil près du corps. Il le mit rapidement au courant. A-t-on identifié ce Claude Gauvin? Dès qu'on m'a donné l'information, j'ai demandé aux policiers qui relevaient l'identité des invités d'être particulièrement attentifs à ce nom, et de me prévenir illico s'ils se retrouvaient en face d'un individu portant ce patronyme. Pour le moment, je n'ai été averti de rien. Le brigadier Lemayeux, qui était entré discrètement dans le bureau quelques instants auparavant, intervint. Le contrôle des identités est terminé. Prévenu par les collègues, j'ai épluché la liste. Il n'y a personne de ce nom. Boulanger soupira. Évidemment, c'eût été trop beau. À mon avis, dit Preux, on se trouve devant plusieurs possibilités. La plus simple est que quelqu'un réponde effectivement au nom de Claude Gauvin, qu'il s'agisse du meurtrier et qu'il ait pris la fuite aussitôt après son crime. Autre hypothèse plausible, Claude Gauvin est un pseudonyme. Quelqu'un a endossé cette identité pour cacher la sienne et approcher Barbara. Attention, Frédéric. Ces suppositions reposent sur le fait que le meurtrier a perdu son badge au salon. Mais si c'était précisément ce qu'on veut nous faire croire, qui nous dit que l'assassin, ou même quelqu'un d'autre, plus tard, n'a pas laissé volontairement ce badge pour brouiller les pistes? Preux réfléchit un moment. C'est effectivement envisagé. Il est singulier qu'aucun des témoins arrivés rapidement sur les lieux ne l'ait mentionné. Il est vrai aussi qu'ils sont restés près du seuil, d'où le badge, je l'ai vérifié, était invisible. Bref, conclut Boulanger, cette question de badge est bien compliquée. En tout cas, il nous faudra dans les prochains jours établir s'il existe un Claude Gauvin qu'aurait connu Barbara. L'affaire est peut-être encore plus complexe, mon commandant, dit le mailleux, sortant de son mutisme. Imaginons que quelqu'un ait déambulé dans les Garden Party avec ce badge. S'agissait-il d'un homme ou d'une femme? Claude est un prénom ambivalent. Il régna un long silence dans la pièce, comme si chacun mettait du temps à digérer la remarque de Lemayeux. Bon Dieu, vous avez raison, finit par dire Boulanger. Nous ne savons même pas si nous devons rechercher un homme ou une femme. Eh bien, poursuivit-il d'une voix où l'on sentait de l'exaspération, laissons tomber ceux ou sept Claude Gauvin et allons examiner la chambre de Barbara. Sous la conduite de Preux, que Tillier avait renseigné, ils empruntèrent le large escalier de marbre à la droite du hall et débouchèrent dans un corridor assez étroit sur lequel donnaient à droite comme à gauche plusieurs portes fermées. Devant l'une d'elles, au centre du couloir, un gardien de la paix était posté. Il salua respectueusement les trois hommes et leur ouvrit la porte. La pièce était spacieuse et fort claire, grâce à une grande fenêtre qui occupait la majeure partie du mur faisant face à la porte d'entrée. On aurait dit la chambre d'une adolescente de 16 ans. Des posters de chanteurs ornaient les murs. Le lit était encombré de peluches et, d'une manière générale, la pièce regorgeait d'objets fétiches. La personne qui vivait ici manquait de confiance, pensa Boulanger, qui s'approcha d'un bureau à cylindre ouvert. Un grand bloc de papier y était posé. Boulanger le feuilleta au hasard. Il vit des dessins au crayon, tout un bestiaire composé uniquement de têtes, têtes d'oiseaux, de chiens, de singes et de chevaux selon les pages. Comme celle-ci était toujours représentée de face avec un réalisme saisissant, il eut l'impression au bout d'un moment d'être lui-même dévisagé par tous ces animaux, et il en ressentit un vague malaise. Il referma le bloc. Elle avait un sacré coup de crayon, dit le mailleux qui avait regardé par-dessus l'épaule de Boulanger. Il dessinait lui-même à ses heures perdues et donnait régulièrement des dessins humoristiques au journal syndical. Boulanger s'abstint de répondre. Il ouvrit les tiroirs des petites niches. Quelques-uns étaient vides, d'autres contenaient de menus accessoires de bureau, élastiques, punaises, trombones. D'autres enfin étaient remplis d'objets disparates. Des élastiques de cheveux, un jeu de cartes, un flacon de vernis à ongles, des boîtes de Smarties. Il s'attaqua ensuite au tiroir du bas. Les deux premiers étaient encombrés de livres d'art et de revues sur le cinéma. Dans le troisième, il trouva de vieux bulletins scolaires et d'anciennes photos de classe. Il prit le premier bulletin, une double page cartonnée toute jaunie, sur laquelle était écrit en grosses lettres noires « École Sainte-Thérèse ». C'était la classe de CE2. Les notes de Barbara se révélaient très moyennes, voire faible comme en mathématiques, sauf dans les matières artistiques où elle excellait. L'institutrice, une certaine Madame Mouchette, avait en face de la rubrique « Dessin » écrit ce commentaire. « Quel talent, ira loin !»« Jusqu'à 30 ans, » se dit Boulanger avec un rictus de dérision, en repensant à la morte. Il saisit la liasse de photos de classe, les posa sur le bureau. Elles allaient de la 6e à la classe de BEP. Sur les plus anciennes, il ne reconnut pas immédiatement Barbara parmi toutes ces blondinettes qui se ressemblaient et dut, pour la repérer, utiliser la liste des noms et prénoms qui figuraient sur l'autre page en regard de la photo. Après, cela devenait plus facile. Il put ainsi voir, en suivant les années, l'éclosion du papillon. Sur les dernières photos, en effet, Barbara était la plus jolie fille du groupe. Comme il s'apprêtait à ranger le paquet, il distingua au fond du tiroir un petit agenda noir. Il correspondait à l'année en cours. Mais l'examen s'en révéla décevant. Il n'avait été rempli que jusqu'au mi-février et ne contenait que des indications d'emploi du temps banales. Pendant ce temps, Preux avait examiné une grande armoire qui faisait penderie. Bon sang, je n'ai jamais vu autant de robes. Il y a de quoi habiller tout un pensionnat. Boulanger sourit en apercevant le ton de reproche dans la voix. Décidément, Preux en voudrait toujours aux bourgeois. Quelque chose m'intrigue, dit le commandant en scrutant la pièce. Nous n'avons trouvé aucune lettre. Elle ne vous pouvait pourtant bien recevoir du courrier. Peut-être ne le gardait-elle pas, hasarda Preux sans conviction. Je ne serais pas surpris d'apprendre qu'elle utilisait abondamment l'e-mail, suggéra le mailleux en montrant l'ordinateur placé dans un coin. Eh, ce n'est pas bête, dit Boulanger qui pensait à ses deux filles, grandes utilisatrices de ce moyen de correspondre. Essayez de voir si vous pouvez y accéder, poursuivit-il à l'adresse de le mailleux, le plus doué en informatique des trois. Celui-ci mit en route l'ordinateur. Barbara avait installé comme fond d'écran une image de Scarlett O'Hara, dans Autant n'importe le vent. Le mailleux cliqua plusieurs fois avec la souris, il eut une moue de dépit. Comme je le redoutais, elle a mis un mot de passe pour accéder au mail. Il faudra faire venir un spécialiste, dit Preux qui s'était approché d'une boîte à bijoux, posée sur le manteau de la cheminée. Il y en avait beaucoup, mais il s'agissait essentiellement d'articles de fantaisie. Le seul bijou de prix était une alliance en or. Preux regarda l'intérieur de l'anneau. Bien qu'elle fût écrite en petit, il parvint à déchiffrer l'inscription de Gilbert à Doris, le 18-5-61. Il devait s'agir de la mère de Barbara. Il faudrait demander confirmation à Rebecca Tillier. Finalement, la visite se révéla décevante. Seule la messagerie électronique pouvait encore amener quelque chose d'intéressant. Preux fut soulagé. Il n'aimait pas ces fouilles qu'il ressentait comme un viol ultime de la victime, même s'il devait reconnaître qu'elles s'avéraient parfois utiles. En bas, les derniers invités étaient repartis. La recherche du couteau n'avait elle non plus rien donné. Eh bien, tant pis, soupira Boulanger. Nous allons en rester là pour ce soir. On dit que la nuit porte conseil. Rendez-vous demain à 8 h au SRPJ. Peut-être l'un de nous aura-t-il une idée géniale durant son sommeil. Et si ce n'est pas le cas, nous pouvons toujours tenter de nous en remettre à l'intuition féminine de Monin pour nous mettre sur une piste.